Émile Blémont, la messe des anges. La messe des anges se dit, comme on le sait, devant le cercueil des petits-enfants. Qui de nous n'y a assisté une fois au moins? Quand on est jeune, on y vient d'un cœur distrait, on pense à bien d'autres choses en vérité. On s'étonne de ces cérémonies, de ces douleurs, de ces pleurs, de ces sanglots. Tout cela pour un petit être né d'hier, qui savait à peine parler, et dont le chétif cadavre tient dans une bière à peine plus large qu'une boîte à violon. Quand on a soi-même un enfant, l'impression est toute différente. Voici. On rentre chez soi, on trouve une lettre bordée de noir où on lit ces mots si étrangement douloureux. Vous êtes prié d'assister au convoi, service et enterrement de Mademoiselle Blanche-Marie, décédée dans sa troisième année chez ses parents. Laudate pueri dominum. Et ces simples lignes vous émeuvent jusqu'au fond du cœur. Subitement assombri, vous embrassez la chère et tendre fillette qui vous reste à vous, qui vous sourit, un peu gênée par votre tristesse, et que la mort peut aussi, tout d'un coup, sans motif, irréparablement, arracher de vos bras. Puis, vous allez à la messe des anges. Au milieu du cœur apparaît le cercueil, tout petit, sur de larges supports, et drapé de blanc, la flamme pâle des grands cierges semble aux quatre coins. À l'autel, le prêtre va et vient, se tourne et se retourne, joint les mains et s'agenouille, psalmodie un latin nasal et se recueille en des silences mesurés. Sous les cierges, 7 ou 8 enfants de cœur, la calotte rouge sur le sommet de la tête, les cheveux plaqués au front, chantent en faisant chacun leur mouvement machinal autour d'un grand jeune homme barbu qui marque les temps en levant et en abaissant la main et qui gourmande ses élèves à voix basse. Des diacres et des sous-diacres enchâssés dans de grands sacs dorés d'étoffes droites et métalliques suivent de l'œil et copient les mouvements du prêtre. Un ténor à figure ronde et rasée renfle sa bouche d'harmonie. Les 2 autres musiciens près de lui regardent avec la plus parfaite indifférence tantôt les notes noires et blanches perchées çà et là dans les 5 fils des cahiers à musique, tantôt les statues de marbre jaunies ou les fresques un peu passées que semble animer un rayon de soleil irrité et irisé par les vitraux. Dans les stalles de bois luisants qui encadrent le cœur de leurs 2 rangées symétriques, s'échelonnent les proches parents de ce petit cercueil. Là, point de dames, 2 doubles rangs d'habits noirs. Les dames sont dans la nef, un côté leur est réservé. Elles sont en général grand deuil, courbent la tête et quelques-unes pleurent. De l'autre côté sont les amis. Par moments, du fond de l'église, une ombre triste et lente vient se joindre à l'assistance. Les nouveaux venus serrent silencieusement la main des premiers arrivés. On se murmure un mot à l'oreille. Mais de quoi est-elle donc morte ? Oh, ne m'en parlez pas, les médecins n'ont rien pu faire. La maladie a été subite, cruelle. Un coup de vent qui souffle une flamme. Mais il y a 8 jours, j'ai vu la chère petite en parfaite santé. Et comme elle était mignonne, dans sa robe blanche brodée, avec ses fins cheveux blonds noués d'un ruban bleu. Sa gaieté rieuse et chantante était pleine d'aurore. Elle disait les mots avec un accent si simple et si fraîche d'intensité d'expression qu'il semblait qu'on les entendît pour la première fois. Les phrases les plus banales, les plus fanées, avaient l'air de refleurir sur ses lèvres. Et quand on jasait avec elle, oh, on se sentait au printemps. Oui, c'était un charme, quel bon naturel. La dernière fois que je l'embrassai, elle m'a dit « Monsieur, vous avez un petit garçon, amenez-le, je l'aimerai bien et nous jouerons ensemble. Je serai sa maman. » Regardez le père, oh, il a l'air brisé. Le père, il est là, voyez-vous, dans la première salle du chœur, pâle, les yeux rouges, la figure gonflée. Oui, il a l'air réellement accablé, brisé, le chapeau à la main, correctement vêtu de noir, se levant et s'asseyant comme les autres au bruit que fait en tombant sur les dalles la hallebarde du Suisse. Sa douleur est d'autant plus poignante qu'elle est plus correcte et plus éteinte. Le regard vague, il est tout absorbé par des visions intérieures. Il suit un souvenir, un rêve. Brusquement éveillé, il tressaille. Il se demande si la funèbre réalité qu'il ressaisit n'est pas un songe également. S'il est bien là pour son propre compte aujourd'hui. Si c'est le deuil de son enfant qu'il mène. Et s'il n'est pas venu, comme cela lui est déjà plusieurs fois arrivé, en ami, en étranger, pour un père autre que lui-même, pour un autre enfant que sa petite Marie. Pendant une semaine, oh la terrible, la longue et lugubre semaine, il a suivi les progrès incessants de l'implacable maladie. Il a vu jour par jour l'âme frêle s'enfuir, insaisissable, du pauvre petit corps martyrisé. Il a vu les médecins pencher leurs cheveux blancs sur le berceau et se retourner silencieusement vers lui en hochant la tête. Il a guetté des nuits entières un signe d'espoir et de renouveau, un regard plus clair, un sourire moins souffrant, rien. L'enfant ne se plaignait seulement pas, elle avait l'expression mystérieusement résignée des innocents qui se sentent emportés du monde et de la vie. En la retrouvant toujours plus faible, toujours plus émaciée, il regardait alors autour de lui, il écoutait, il cherchait, qui pouvait maltraiter ainsi sa fille. Et ne voyant personne, n'entendant personne, dans le morne apaisement que l'on fait autour des malades, il se sentait frappé de stupeur. Il restait là, sur une chaise, à un chevet de l'enfant, sans parole, sans mouvement, la tête lourde, les yeux fixes. Puis, un matin, tandis que le jour blafard, se glissant à travers volets et rideaux, isolait et atténuait la lueur jaune des lampes, sans un bruit, sans un mouvement, sans un signe, sans un adieu, elle avait expiré. De tant d'amour et de bonheur, de tant d'espérance, il n'était resté qu'un petit corps froid, inerte, un visage fermé, où le suprême sourire s'était figé, s'était glacé en des pâleurs d'ivoire. Une fleur flétrie, un parfum envolé, et plus de traces de cette frêle existence, sauf dans la douleur, dans le désespoir hélas d'un père et d'une mère. Toutes ces choses reviennent maintenant, pendant cette messe des anges, à l'esprit de cet homme en noir que vous voyez, le chapeau à la main, debout dans la première salle du chœur. Elles reviennent dans leurs moindres détails, avec une netteté déchirante, cuisante. Il entend le son d'une voix faible, les sanglots convulsifs des crises, le bruit des pas du médecin qui se rapproche, le son argentin mouillé d'une cuillère dans un verre de tisane. Et pourtant, c'est à peine s'il peut admettre que tout cela se soit passé ainsi, que sa fille ait été malade et qu'elle soit morte. Hier, les gens des pompes funèbres sont venus. Hier, on a pris mesure du mince cadavre de Marie. Hier, on l'a habillé et paré pour la tombe. Hier, on l'a déposé dans le cercueil. Mais il doute encore. Il a dû les commander, les lettres noires. Il a dû en donner la rédaction. Chercher et compléter la liste de ses parents, de ses amis, des personnes connues par lui. Il ne voulait pas faire d'impolitesse. Il a dû conférer avec un homme d'affaires pour le cimetière, avec un prêtre pour le service mortuaire. Mais il doute toujours. En vain, le cercueil est là devant lui, drapé de blanc au milieu du chœur. En vain, les cierges brûlent, tandis que la musique sourde et pleurante l'enveloppe, le pénètre. Vainement, l'assistant sans deuil, convoqué par lui, le regarde avec une sympathique tristesse, et vainement, il se sent lui-même brisé de douleur. Il se refuse toujours, toujours à concevoir que sa fille soit morte, morte pour ne plus revenir. C'est qu'aussi les bons moments qui ont précédé cette semaine sinistre, cette semaine fatale, le reprennent tout d'un coup avec tant de caresses. Son mariage, les premières entrevues, la robe blanche de la mariée au jour des noces, les chants et les fleurs de l'église, alors parées et rayonnantes, le repas du soir autour de la grande table longue, le rubis des vins vieux qui tremble dans le fin cristal aux doigts mal assurés des vieux parents, et la première valse et les premiers abandons. Tout cela revit réel, distinct, clair, sur le fond sombre de son désespoir. Puis c'est la jeune femme qui se sent devenir mère. Ce sont les soins, les attentions dont chacun l'entoure, l'anxiété, les crises aiguës de l'enfantement, le regard apaisé, triomphal de la faible accouchée sur la chère petite créature qui vient de sortir d'elle, qui aveugle et encore est presque sans organes, déjà pourtant souffre et vagit, et que l'on consolera, et que l'on aura tant de bonheur à consoler, à rendre heureuse et digne d'amour. Ensuite passent 3 années de consentement, de félicité. Elle voit, elle parle, la chère enfant. Elle apprend à jaser, à sourire, à aimer. Oh, les belles toilettes mignonnes, depuis la longue pelisse blanche des premiers jours, jusqu'à la fine jupe écossaise, très élégante, qu'elle portait le mois dernier. Oh, les beaux petits souliers bleus, les beaux petits bonnets à ruches, et les premiers joujoux, le mouton qui bêle, le lapin qui joue du tambour, le chemin de fer minuscule, où monte et descend la file des wagons de métal léger, aux étroites fenêtres et aux quinces peintes en verre. Et l'avènement de la poupée, et les joyeux ébats sur le tapis bariolé de la chambre à coucher, et les dînettes sur la chaise haute à table entre père et mère, et les baisers à la ronde, et les recommandations d'être bien sage et de s'endormir bien tranquillement à 9 heures avec la poupée rose. Mais tout ce bonheur-là n'a-t-il été qu'un rêve, une illusion fugitive? Le rêve, n'est-ce pas plutôt cet affreux cauchemar de 8 jours et cette funèbre cérémonie qui se poursuit, qui s'achève? Elle s'achève, hélas, et le doute n'est pas possible. La réalité, c'est la mort, c'est le désespoir. On conduit le père au catafalque, on lui donne un goupillon, et ses jambes fléchissent quand il jette l'eau bénite sur le coffre étroit où gisent inanimés ce qu'il aimait le plus au monde. Le défilé commence, chacun vient serrer la main à l'infortuné qui voudrait être seul. C'est interminable, et les larmes lui montent aux yeux quand il voit les femmes, l'une après l'autre, le regarder en pleurant. On emporte la bière, la voilà hissée sur la voiture, où il n'a pas fallu grand effort. Et voilà cet homme, il y a 8 jours, le plus heureux des hommes, qui chemine tête nue sous le ciel gris, le long des rues boueuses, derrière le lent corbillard, dans la pleine conscience de son irrémédiable malheur. La mère est restée à la maison, affaissée, immobile. Elle pleure, elle prie. On lui parle, mais elle n'écoute pas. Elle a les mains jointes et regarde fixement devant elle. On a peur qu'elle ne meure de cette mort, qu'elle ne suive l'enfant parti. Toutefois, elle se consolera peut-être plus vite et mieux que le père. Elle a la religion. Elle croit à une éternité où l'on retrouve tout ce qu'on a perdu. Mais lui, il n'est pas un être de sentiment. Il est un être de raison. Il sait. Il a compris dès longtemps que toutes nos visions d'immortalité ne sont que de frêles hypothèses, sinon de pures chimères. Il ne croit plus au mirage. Allez donc lui dire que Madame la Vierge attend là-haut, dans une étoile, les petites filles mortes, et les fait jouer avec l'enfant Jésus en blouse d'or. Elle sourira tristement, mais pour lui, cela n'est pas, cela ne peut pas être. Sa tête se perd, le cerveau vide, les yeux vagues, et il monte le long chemin pavé qui mène au cimetière. Il se rappelle soudain, dans des lueurs intenses de mémoire, des coïncidences, des réflexions faites jadis. Il se rappelle le pressentiment qui lui serra le cœur un jour, en voyant un pauvre homme humblement vêtu, suivre tout seul à pied un tout petit cercueil que portait dans ce dandinant sous le poids deux croque-morts à uniforme noir usé et à chapeau luisant, dont le premier mangeait, chemin faisant une pomme rouge, un tout petit cercueil blanc, sur lequel il y avait deux bouquets violettes d'un sou. Il s'était demandé alors ce qu'éprouvait le pauvre homme qui marchait derrière. Et le pauvre homme aujourd'hui, c'est lui-même. Et là, ce cortège piétine, bourdonne à sa suite, et les passants se découvrent et s'arrêtent pour voir, comme lui jadis, ce deuil et cette douleur. Et pourtant, il n'arrivera que trop tôt au cimetière. Pauvre père, qui donc vous consolera maintenant des amers soucis de la vie ingrate qu'on mène dans notre après siècle, des luttes acharnées, des fausses amitiés, des calomnies, des vols, des ingratitudes et des banalités écœurantes? Mais à quoi bon travailler, à quoi bon gagner de l'argent ou de la gloire maintenant? N'êtes-vous pas ruiné, ruiné dans l'âme? Il cherche pour quelle fin le destin veut que ses petits-enfants, qui nous sont si chers, ils sont si innocents, souffrent et meurent. Et puis, malgré tout, lentement, irrésistiblement, il se prend à penser que pas une parcelle d'amour ne doit se perdre ici-bas, qu'il vaut mieux avoir aimé et avoir fuir ce qu'on aimait que n'avoir pas aimé du tout, et que la loi universelle, quelles que soient les apparences contraires, doit être justice, bonté, bonheur. Autrement, mais pourquoi l'univers? Pourquoi l'existence? 23 mars 1873.